m'en direz des nouvelles ?
Jean-François Cadet, Michael Goncalves, Elsa Olaizola.
Bonjour, bonsoir. Il peut se vanter d'avoir le plus beau curriculum vitae du monde. Et pour cause, il peut se vanter d'être aussi bien un artiste, peintre, sculpteur, musicien, inventeur de fêtes et de spectacles, qu'un architecte, qu'un écrivain, poète et philosophe, ou qu'un scientifique, anatomiste, botaniste et ingénieur. Et j'en oublie sans doute. Son Salvator Mundi est le tableau le plus cher du monde. Il a été vendu 450 millions de dollars voici 2 ans. Mais ses œuvres les plus célèbres, ce sont sans doute la Seine et bien évidemment la Joconde. Il y a 500 ans, le 2 mai 1519, mourait Léonard de Vinci à Amboise en Touraine. Retour sur un parcours exceptionnel aujourd'hui dans VMDN avec nos deux invités. Valérie Mettet, historienne de l'art, elle publie chez Larousse un superbe ouvrage illustré, sobrement intitulé Léonard de Vinci, et l'historien Pascal Briouat, spécialiste de la Renaissance, professeur à l'université François Rabelais de Tours, pour un livre érudit et passionnant, Les Audaces de Léonard de Vinci, qui vient de sortir chez Stock, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Il y a un mot qui arrive spontanément à l'esprit, Valérie Mettet, quand on évoque le personnage et l'œuvre de Léonard, c'est le mot génie. Alors, je vous le donne en mille, en quoi Léonard était-il un génie ?
Alors, c'est vrai que le mot génie est un mot plaisant, fascinant, etc., tout autant que Léonard de Vinci, mais peut-être aujourd'hui, et peut-être Pascal Briouat sera d'accord avec moi, peut-être il serait bon d'essayer de contourner ce mot pour essayer de comprendre un petit peu qui était Léonard de Vinci, parce que en effet, dès qu'on dit génie, et en général on dit génie universel, ce qui en rajoute un petit peu, on a l'impression que ça empêche de penser et on a l'impression qu'on ne sait pas de qui on parle. Et ce qu'il me semble, pour ma part, enfin important, et j'ai l'impression que dans les travaux de Pascal Briouat, c'est ce qui revient tout le temps.
Oui, c'est vrai Pascal Briouat, que tout votre livre en fait est une occasion de déconstruire un certain nombre de clichés qui sont entrés dans la tête du grand public et même parfois de certains historiens.
Bien sûr. Oui, mais en fait, je veux comprendre l'intelligence de Léonard de Vinci, entrer dans l'esprit de Léonard de Vinci, et je pense qu'on ne peut réaliser cela qu'en abandonnant tristement l'idée de génie.
Non, mais je pense que c'est pas du tout triste comme parce que c'est quelqu'un qui peut être placé de manière sans doute difficile aussi pour les historiens et les historiens de l'art, mais dans son temps, dans l'art de son temps. Et comme disait l'un des plus grands historiens de l'art qui a beaucoup travaillé sur lui, Daniel Arras, c'était une façon aussi de penser historiquement l'exception. Comment peut-on être exceptionnel à la Renaissance? Alors c'est vrai que quand on dit génie universel de la Renaissance, il y a déjà 3 mots à expliquer, on comprend pas bien. Mais quand on dit déjà que Léonard de Vinci naît, je sais pas, à Florence, au milieu du 15e siècle, qu'on sort du Moyen-Âge, vous voyez, sans essayer de faire des anachronismes ou des téléologies, c'est-à-dire de savoir où il va, alors qu'il a à peine commencé, je pense qu'en effet, on commence un petit peu à toucher les choses du doigt et à comprendre à la fois ce qu'il a fait en peinture, ce qu'il a fait en dessin, ce qu'il a fait en texte, etc.
Alors, fils illégitime d'un notaire de Vinci, Pascal Briouat, rien, a priori, ne le prédestinait, Léonard, à devenir le savant, le scientifique qu'il est devenu.
Non, il partait même avec un handicap qui est que, en étant fils illégitime, on ne peut pas aller à l'université, donc on n'a pas accès au latin, donc on n'a pas accès aux textes savants.
Exactement.
Et donc, pour cela, il a fallu qu'il apprenne de lui-même, il a fallu contourner. C'est un vrai autodidacte, Pascal Briouat.
Oui. Un vrai autodidacte entouré d'un réseau de gens intelligents et qui ont voulu lui passer leur savoir.
Donc avec un sens politique, il a su s'entourer, il a su séduire peut-être aussi les bonnes personnes.
Oui, je pense que sa curiosité même est séduisante.
Valérie Mettet.
Alors, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup écrit, beaucoup glosé sur enfant illégitime, a-t-il été élevé par sa maman, par son papa, par son grand-père, etc. C'est vrai, comme le dit Pascal Briouat, que ce qui est important, c'est de savoir dans quel milieu un peu social il est. Il est d'un milieu social assez moyen, voire supérieur par son père, mais en effet, par son illégitimité, peut-être il est un petit peu décalé. Et c'est aussi sans doute parce qu'il a été très entouré, on va pas faire dans la psychologie de bazar, mais qu'il a été très entouré, qu'on lui a appris beaucoup à voir, qu'il a commencé à développer comme ça cette fascination d'observation, peut-être léguée par son grand-père, etc. Et qu'en effet, il ne va pas à l'université, il va dans ce qu'on appelle à l'époque les Scuola da Bacca, excusez-moi, je suis pas très bonne en italien, les écoles d'ABAC, c'est-à-dire qu'ils sont des écoles qui apprenaient aux fils de marchands florentins l'arithmétique pour faire leur travail, donc pour calculer, etc. Mais c'était pas, comme on dirait aujourd'hui, les mathématiques comme on peut apprendre à l'école supérieure. Donc en effet, il va avoir quand même une éducation, donc c'est pas non plus quelqu'un qui sait pas lire, etc. Mais en effet, il ne sait pas le latin, ou du moins un latin comme ça de transmission, et il n'est pas un lettré. Mais comme on le sait, il va beaucoup, beaucoup en jouer de ça, et il va dire, d'accord, je ne suis pas un lettré, et il va développer comme ça des facultés exceptionnelles à partir de ça.
Avec une force de caractère là aussi exceptionnelle, puisque le premier titre de votre premier chapitre, Valérie Mété, c'est une rigueur obstinée.
Oui, alors moi j'aime beaucoup cette devise, et c'est vrai que au début, j'ai vraiment cru qu'elle était de Léonard de Vinci. Elle l'est sans doute. Elle a été très reprise par Paul Valéry. En italien, c'est ostinato rigore. C'est un terme qu'on emploie aussi beaucoup en musique aujourd'hui pour dire quelque chose qu'on répète, jusqu'à le savoir. Et je trouvais que c'était bien d'en parler pour Léonard, parce que quand on parle de génie, on a l'impression que, voilà, on travaille et on y arrive tout de suite.
Alors c'est pas du tout le cas.
Alors qu'une des caractéristiques de Léonard, c'est de beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, de reprendre, d'observer, de dessiner, d'écrire, de reprendre.
C'est un boulimique de lecture, Pascal Brivois ?
Oui, il a, pour quelqu'un qui appartient à cette strate culturelle intermédiaire entre les villes lettrées, et les très lettrés, il a une bibliothèque extraordinaire. C'est-à-dire que j'avais calculé ce que ça représentait, mais ça ne le dérange pas de dépenser des mois de salaire entiers pour acheter des livres. Il a très vite 200 livres dans sa bibliothèque, ce qui le place dans les gens très cultivés. Au départ, des livres plutôt en toscan, la littérature populaire en toscan, mais plus on avance dans sa vie, plus on voit apparaître des livres en latin, des livres scientifiques, et c'est une culture qui se bâtit.
Et qui couvre vraiment tous les domaines, hein, parce que ça c'est une phrase qui claque vraiment dans votre livre, et qui, je pense, indique réellement ce qu'est le personnage Léonard et comment il fonctionne. Tout l'intéresse.
Oui, c'est difficile de trouver une chose qui ne l'intéresse pas, en fait.
Peut-être. Il paraît que Dieu l'intéressait moins que le reste, vous savez.
Oh, il a son Dieu à lui.
C'est ça, voilà.
Si on met nature à la place de Dieu, ça marche déjà mieux.
Ouais, ouais. Mais en tout cas, il y a un mot aussi qui est très important, c'est l'observation. Vous l'avez employé déjà à plusieurs reprises depuis le début de cette émission. Oui. Valérie Mété, il observe tout. Il observe la nature, il observe les plantes, il observe les animaux, il observe l'être humain. Ça veut dire que son savoir, il s'est réellement construit à partir de son expérience.
Alors, en sortant, je pense, de son école d'arithmétique, il entre quand même dans l'atelier le plus prestigieux de Florence, qui est donc dirigé par Verrocchio. Et donc, je pense qu'il y a là cette culture d'atelier qui est une culture polyvalente, donc où Léonard va... Je ne sais pas s'il va tout apprendre, parce que je pense qu'il savait déjà beaucoup de choses, et sans doute il savait extrêmement bien dessiner, observer. Il y avait un rapport comme ça à l'observation qui était très fort et à la vision. Mais chez Verrocchio, on pourrait dire que cela n'est pas exceptionnel, parce que Verrocchio est quand même quelqu'un de prodigieux aussi.
Hein. Peintre, sculpteur, orfèvre aussi. Donc
aujourd'hui,
lui aussi, il a touché à beaucoup de domaines artistiques.
On retient de lui que c'est le maître de Léonard de Vinci. Il y a des peintres comme ça, on ne retient que le fait qu'ils étaient des maîtres, ce qui est déjà quand même beaucoup. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui touche à tout. Et c'est une culture, non pas, on pourrait dire, d'artiste, mais c'est une culture d'artisan et une culture technologique.
Donc on est dans la pratique.
C'est ça. Donc on pourrait dire qu'il va apprendre le comment. Comment fondre une cloche, comment fabriquer un miroir, comment, etc. Et Léonard, comme ses congénères, les autres apprentis puis collaborateurs, va se nourrir énormément de ça. Et peut-être lui va aller un peu au-delà, et plutôt que de se satisfaire du comment, il va chercher le pourquoi. Il va passer du technicien au... scientifique.
Voilà, Pascal Brivois, il y a des pages vraiment passionnantes, hein, quand vous décrivez ce qu'est un atelier de la Renaissance comme celui de Verrocchio. Vous prenez beaucoup de précautions, hein, parce qu'on ne sait pas très précisément ce qu'a appris Léonard au contact de son maître. Mais enfin, il y a quand même, bon, déjà la couleur, il y a la palette de couleurs, il y a les techniques de la peinture, le pinceau, mais pas seulement. Et puis surtout, il y a la perspective, et on parlait du regard, on parlait de l'œil de Léonard il y a quelques instants. Ça, c'est vraiment un élément clé, aussi bien dans son observation scientifique que dans son œuvre picturale.
Oui, alors les perspectives, parce qu'il y a à la fois la perspective géométrique, qui est arrivée en Italie bien avant, dès les années 1420, Brunelleschi fait de très belles expériences pour démontrer la supériorité de cette géométrie particulière constructiviste, mais c'est aussi toute cette perspective aérienne qui vient plutôt des Flandres, et Léonard va encore enrichir tout ça de toute sa réflexion savante sur l'optique.
Oui.
Tout au cours de sa vie.
Exactement. Et dans ses écrits, selon les périodes, il distingue entre 3 et 4 perspectives. Donc il y a la perspective géométrique, en effet, inventée par Brunelleschi, euclidienne, etc. Mais qui demande à ce que le spectateur de l'œuvre ne bouge pas, et un œil unique, et regarde bien le milieu. Ce qui est en fait une convention, puisque dans la réalité, on bouge tout le temps, on a 2 yeux, etc. Il va en effet beaucoup travailler ce qu'il n'invente pas non plus, la perspective atmosphérique avec les couleurs. Il va inventer aussi une perspective d'effacement et de flou, c'est-à-dire plus on s'éloigne, moins on voit. Il doit en manquer une, il va y avoir aussi une perspective avec la diminution des personnages.
Ouais, et le travail sur la perspective, Valérie Mettez, vous l'illustrez à travers un tableau, l'adoration des mages.
Oui, donc c'est vrai que le problème de Léonard, c'est qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont attribuées, désattribuées, qui sont achevées, pas achevées, donc on ne sait pas non plus ce qu'il aurait exactement fait avec cette adoration des mages qui le laisse. En l'état, on a quand même un très très beau dessin très important où on voit qu'il maîtrise absolument parfaitement la perspective.
Ouais, il y a l'étude de prospective qui est accolée au tableau.
Et en effet, c'est quelque chose qu'on apprend dans un atelier à Florence qui est là depuis le début du 15e siècle. Donc je dirais c'est pas extraordinaire de maîtriser la perspective à cette époque-là, mais déjà on sent qu'il va s'en éloigner, il va jouer, parce que Léonard il joue avec les règles, il connaît tout, mais il est très audacieux, en fait, c'est ça. Il joue avec les règles tout le temps.
Alors, Pascal Briouat, il y a les dessins, effectivement, préparatoires au tableau, en particulier pour la perspective, comme on le disait, et puis aussi le dessin de toutes ces inventions. Et là, vous battez un petit peu en brèche la réputation de Léonard, parce qu'on a l'impression que cet homme a absolument tout inventé, hein, aujourd'hui. Et puis vous vous dites, bon, bah, quand même, faut pas exagérer, parce qu'il s'est quand même aussi beaucoup inspiré d'autres inventeurs, en particulier des inventeurs de la ville de Sienne, hein, également en Italie. Par exemple, si on prend quelques exemples concrets, est-ce qu'on peut dire que Léonard a inventé l'hélicoptère?
Ben non, il a évidemment inventé le principe de la portance, et il a dessiné ce qui dans sa tête ne devait être qu'une petite machine en carton avec un ressort pour vérifier le principe de la portance. C'est ce qu'on appelle l'hélicoptère de Léonard, mais si vous essayiez de faire voler une chose comme celle-là,
ça marche pas.
Ça ne marcherait pas. On dit qu'il a inventé le parachute, mais on a des ingénieurs siennois quelques décennies avant lui qui dessinent la même chose, y compris des hommes battant des ailes. Donc ça ne marche pas. Il n'invente pas le tank, il n'invente pas les orgues d'artillerie, il n'invente pas le scaphandre. Le sous-marin, j'en connais pas beaucoup avant lui. Peut-être, mais enfin, le scaphandre, non. Donc, en fait, c'est comme si on admirait le mauvais Léonard.
Oui, en fait, le bon Léonard, c'est surtout celui qu'il faut saluer pour son apport à l'industrie textile, par exemple. Là, vous insistez beaucoup sur les machines textiles qu'il a conçues. Et là, c'est du concret. Hein,
c'est un bon exemple, mais on ne sait même pas si les machines textiles fabuleuses qu'il améliore sont vraiment de lui. C'est-à-dire que faut imaginer que Léonard est une véritable éponge à toute la technologie qui l'entoure. Il y a des champs tout à fait nouveaux. Par exemple, dans les machines volantes, il est le premier à aller aussi loin. Ça, on est d'accord. Et puis, il ordonne la mécanique en éléments de mécanique simple, en disant « toute machine est une combinatoire d'éléments simples ». Et donc, il fait une sorte de dictionnaire de tous les éléments simples de la mécanique pour produire une théorie. En fait, il n'est pas le penseur, il n'est pas l'inventeur de machines, il est l'inventeur d'une approche technologique, et ça, c'est fondamental.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
VMDN avec Valérie Métek qui publie Léonard de Vinci chez Larousse et Pascal Briouard pour son ouvrage Les Audaces de Léonard de Vinci, sur la couverture duquel on retrouve un des dessins les plus célèbres de Léonard, l'homme de Vitruve, un dessin annoté. Et pour déchiffrer les mots de Léonard, un texte en vieux toscan, il faut utiliser un miroir. Alors là, ça mérite aussi peut-être une petite explication, Pascal Briouard, puisque Léonard a utilisé ce qu'on appelle l'écriture spéculaire. Donc qui se lit effectivement à l'envers, donc en utilisant un miroir. Pourquoi tant de précautions? Pourquoi tant de mystères?
En fait, il est gaucher et il fait partie de cette toute petite minorité de gauchers qui écrivent spontanément de droite à gauche et de gauche à droite. Il est ambidextre en fait. Et quand vous écrivez à la plume, moi j'ai écrit à la plume quand j'étais petit, j'ai fait énormément de pâtés. Et quand vous êtes gaucher, là c'est l'horreur, parce que vous repassez avec votre main sur l'encre.
Donc
quand on est autodidacte, le plus simple, c'est encore d'écrire dans l'autre sens. Et ça va plus vite. Et il garde cette idée-là.
Voilà. Et que nous dit ce texte, l'homme de Vitruve? Eh bien, ceci.
Vitruve dit dans son ouvrage sur l'architecture, la nature a distribué les mesures du corps humain comme ceci. 4 doigts font une paume, et 4 paumes font un pied. 6 paumes font un coude, 4 coudes font la hauteur d'un homme. Et 4 coudes font un double pas, et 24 paumes font un homme. Et il a utilisé ces mesures dans ses constructions. Si vous ouvrez les jambes de façon à abaisser votre hauteur d'un 14e, et si vous étendez vos bras de façon que le bout de vos doigts soit au niveau du sommet de votre tête, vous devez savoir que le centre de vos membres étendus sera au nombril, et que l'espace entre vos jambes sera un triangle équilatéral. La longueur des bras étendus d'un homme est égale à sa hauteur. Depuis la racine des cheveux jusqu'au bas du menton, il y a 1/10 de la hauteur d'un homme. Depuis le bas du menton jusqu'au sommet de la tête, 1/8. Depuis le haut de la poitrine jusqu'au sommet de la tête, 1/6. Depuis le haut de la poitrine jusqu'à la racine de cheveux, 1/7. Depuis les tétons jusqu'au sommet de la tête, 1/4 de la hauteur de l'homme. La plus grande largeur des épaules est contenue dans le quart d'un homme. Depuis le coude jusqu'au bout de la main, 1/4. Depuis le coude jusqu'à l'aisselle, 1/8. La main complète est 1/10 de l'homme. La naissance du membre viril est au milieu. Le pied est 1/7 de l'homme. Depuis la plante du pied jusqu'en dessous du genou, 1/4 de l'homme. Depuis sous le genou jusqu'au début des parties génitales, 1/4 de l'homme. La distance du bas du menton au nez et des racines des cheveux aux sourcils est la même, ainsi que l'oreille, 1/3 du visage.
Et dans ces quelques mots, dans ce texte, Pascal Briouard, on trouve deux des multiples passions de Léonard, la géométrie et l'anatomie.
Oui. La mesure des choses.
Tout est mesure chez lui.
Tout est mesure, tout est proportion, y compris les chevaux. Et l'idée, c'est que c'est une idée d'artisan, c'est une idée de ces artisans qui croient en ce que disait Pythagore, c'est-à-dire que la nature, dans tous ses aspects, est écrite en langage mathématique. Et donc Léonard cherche cela, y compris dans les dimensions de l'homme. Au passage, il n'est pas impossible que cet homme vitruvien soit un autoportrait.
Ah, d'accord. Mais ça, c'est pas sûr non plus, mais ça participe à la légende du
personnage. Martin Kemp n'est pas d'accord avec cette idée, mais Charles Nicol et moi-même... Moi, je la valide.
Vous allez dans ce sens, en tout cas. Bon.
On cherche la trace de Léonard. Donc, c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose, on essaye de voir s'il ne se serait pas un petit peu livré. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez sur la mesure, c'est extrêmement juste. Et en même temps, c'est complètement dans l'esprit de son temps, dans cette Renaissance, où on est en plein humanisme. Et donc, on va essayer de comprendre et de maîtriser le monde. Et donc, comment maîtriser et comprendre le monde, si ce n'est en le mesurant? Donc c'est le développement de la cartographie, c'est le développement de l'horlogerie pour mesurer le temps. Donc lui aussi est complètement de son temps pour faire comprendre que l'homme, comme ça, la créature privilégiée de Dieu, comprend le monde et le maîtrise.
Mais donc l'homme de science, l'homme de mathématiques, l'homme de l'expérimentation et de l'expérience, parce qu'il utilisait aussi ses expériences pour valider ou invalider une théorie, hein, ça marchait vraiment dans les deux sens. Cet homme de science-là, ce scientifique-là, il est indissociable du peintre, il est indissociable du plasticien, il est indissociable de l'artiste, Valérie Métek?
Oui, je pense que pour Léonard, ce qui est extrêmement important, c'est en effet la peinture. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut paraître paradoxal parce qu'on a aujourd'hui très peu de peinture. Donc on se dit, pour quelqu'un qui a accordé autant d'importance à la peinture, pourquoi n'y a-t-il que 14, 17, 20 œuvres, 30, enfin vous voyez, très très peu. Alors que dans ses écrits, dans ce qui aurait pu constituer un traité de la peinture, bon, c'est compliqué parce que ça a été compilé par l'un de ses compagnons qui était Melzi, il en parle beaucoup. Et en fait, ce qu'il voulait, c'était de faire de la peinture une science et de montrer que ce qui était parmi les choses les plus importantes, c'était le visuel. Donc il va montrer que parmi déjà les autres arts, la peinture est la plus importante parce qu'elle permet de faire voir. La sculpture permet aussi de faire voir en trois dimensions, mais c'est sale. Et puis, ça fait de la poussière, etc. Donc, c'est aussi une façon de dire à Michel-Ange, mon Dieu, regardez comme ce qu'il fait est brutal, etc. Puisque c'était quand même un de ses grands concurrents. Et de montrer aussi que la peinture est supérieure à la musique, supérieure à l'architecture, en fait, supérieure à tous les arts.
Alors, vous citez, hein, c'est l'un des fils rouges de votre ouvrage,
oui.
Des phrases extraites, justement, du traité sur la,
oui.
sur la peinture.
Oui.
Par exemple, celle-ci. Ô peintre anatomiste, prends soin que l'excessive connaissance des os, tendons et muscles
ouais.
ne fasse pas de toi un maître ligneux lorsque tu voudras que tes nus soient trop démonstratifs. Alors c'est intéressant parce que là on touche finalement
oui.
un petit paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la dimension scientifique de l'observation, mais aussi la dimension artistique. Quoi. Et la force de Léonard, c'est de concilier les deux.
Exactement. Et c'est vrai que ce qui est à la fois passionnant et peut-être aussi très inhibant pour quelqu'un qui étudie Léonard de Vinci et pour moi, par exemple, qui ne suis pas une spécialiste de la Renaissance, ce qui est passionnant, c'est de pouvoir, à côté des peintures, comparer ou au moins mettre en perspective, sans faire de jeu de mots, tout ce qu'il a écrit. Et c'est quand même un des artistes de tous les temps qui est le plus écrit. Alors c'est vrai, comme je vous ai entendu en parler, ses écrits concernent plus de 50% l'art de la guerre. Donc non pas l'artiste, mais c'est quand même quelqu'un qui a écrit énormément sur la peinture avec ce style comme ça très direct. C'est une adresse au peintre ou une adresse à lui-même ou une adresse à qui veut bien faire, et avec un style en toscan, avec un peu de lombard qui est extrêmement vif. Et c'est vrai que Léonard, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il est aussi un écrivain. C'est-à-dire qu'il invente son style.
Alors la grande richesse de votre livre, Valérie Mété, c'est aussi, c'est vos textes, mais c'est évidemment l'iconographie qui est évidemment très riche, et donc la reproduction d'un certain nombre de tableaux. Et on parlait de la science, on parlait de l'anatomie, on parlait de l'art aussi du peintre qui était Léonard. Et pour expliquer tout ça, parce que c'est vraiment un livre très pédagogique, très didactique, et c'est pas du tout péjoratif de ma bouche, bien
mais
au contraire, c'est chez Larousse, hein,
on
le répète. Vous utilisez un exemple très concret qui est un tableau intitulé Saint Jérôme dans le désert, qui est un tableau que Pascal Briouat évoque également aussi dans son ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce tableau et nous montrer justement la façon dont Léonard de Vinci se sert de l'anatomie pour développer sa vision, qui est une vision spirituelle?
Alors de nouveau, Saint Jérôme dans le désert est un tableau inachevé, mais ça on pourra peut-être en parler tout à l'heure ou si on a le temps de cet inachevé chez Léonard. C'est vrai que, étant donné que cela représente un homme quasiment nu, vieux et plutôt maigre, et il en parle aussi dans son traité de la peinture, que évidemment l'étude des hommes maigres permet de mieux voir les articulations, etc. Mais ce qui est toujours intéressant chez Léonard, c'est qu'il a une grande connaissance de l'anatomie. C'est quelqu'un qui a disséqué des cadavres, qui a disséqué également des animaux. Donc c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien, qui s'est fait aider aussi par un médecin, etc. C'est que, peut-être comme dans la perspective, c'est qu'il arrive à suivre la règle et à y déroger. C'est-à-dire que quand on regarde le Saint Jérôme, je crois que l'omoplate est un peu trop large ou l'épaule est un peu déboîtée, etc. Donc c'est jamais exactement... je crois que des anatomistes et même des médecins aujourd'hui le disent, ce n'est jamais exactement ça. Et il y a des sons.
Et c'est dans ce petit décalage-là que se situe justement l'art.
Oui, c'est-à-dire
du peintre,
c'est-à-dire
la dimension spirituelle qu'il entendait voir dégager de son tableau.
La dimension spirituelle, je ne sais pas, mais la dimension artistique, oui. C'est-à-dire que comme tous les artistes, il va se fonder sur un certain nombre d'outils, de techniques, dont l'anatomie, et ensuite il va en faire, je dirais, ce qu'il veut. Et tous les artistes vont, que ça soit de la Renaissance ou du 19e ou du 20e siècle, arriver à se décoller comme ça. C'est pour ça que Léonard, à la fois, est un scientifique, mais c'est avant tout un peintre et avant tout aussi un dessinateur, parce que c'est un dessinateur prodigieux, donc qui se fonde sur des observations anatomiques, mais qui en fait ce qu'il veut.
Alors, vous parliez de technique de peinture. À l'instant, il y a un mot qu'il faut quand même expliquer, et c'est le mot sfumato.
Oui.
Le fameux sfumato, l'effet de fondu, on peut traduire cela.
Oui, ou l'enfumé, c'est-à-dire dans sfumato, il y a fumée. Donc c'est enfumé et je pense qu'en effet c'est au cœur de la science de la peinture de Léonard. Il n'est pas le seul à pratiquer ce sfumato, mais c'est sans doute l'un de ceux qui l'a poussé comme ça à un paroxysme assez incroyable.
Mais alors décrivez-nous l'effet de sfumato tel qu'on peut le voir sur un tableau.
Estompé en effet enfumé, c'est une façon, c'est une volonté d'effacer les contours parce qu'il considère que dans la nature et donc que dans l'art les lignes n'existe pas. Donc en fait, pour effacer les contours, c'est une façon aussi d'intégrer sa figure dans un paysage et donc comme ça d'imiter le plus possible la vie. Alors de façon technique tout à fait simple, et ça c'est la technique de la peinture à l'huile qui se développe à son époque et donc à la fin du 15e siècle en Italie, mais qui a déjà été largement développée en Flandre. C'est une technique qui permet de jouer avec les transparences. Donc il va pour le sfumato utiliser des glacis, c'est-à-dire des très 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 fines couches, parce que chez Léonard c'est de l'ordre de quelques micromètres, des très fines couches de peinture très riches en huile, c'est-à-dire transparentes, et donc très pauvres en pigments, c'est-à-dire en couleurs. Et il va en mettre 5, 10, 15, 20. Et il paraît que sur certains tableaux, dont la Joconde ou la joue gauche, puisque tout a été étudié, il y a entre 15 et 20 couches comme ça de glacis, de quelques microns, même si on dit plus ça, d'épaisseur. Et c'est ça qui va donner l'effet de vie, et c'est ça aussi qui va intégrer les figures dans l'œuvre.
C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Mais moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, Léonard me crut Gironde. Quand Léonard vagabonde, mais que voulez-vous qu'on réponde? C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, que de mots vains ont mis nonde. Critiques, artistes abondent en d'intarissables facondes. Plusieurs milliers par seconde disent la Joconde, ah, la Joconde, ah. Venez voir le sourire de la Joconde, c'est le plus beau du monde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, mon sourire vient d'outre-tombe. Attendez que le vernis tombe, attendez la fin du monde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde.
Barbara qui chante la Joconde dans VMDN sur RFI, la Joconde, un des chefs-d'œuvre qui figure sur la jaquette et la couverture de votre livre. Valérie Mettet, c'est évidemment le tableau le plus connu, le plus repris, le plus copié, le plus pastiché aussi au monde. À quoi est-ce que vous attribuez cette postérité exceptionnelle? En quoi est-ce que cette œuvre-là n'est pas comme les autres?
Alors peut-être il faudrait plusieurs émissions pour parler de la Joconde. C'est vrai que Léonard, même si ce sont uniquement des œuvres de commande, est un grand portraitiste. Donc c'est quelqu'un qui a laissé quand même peu de portraits, puisqu'il en a peut-être attribué 6 ou 7 ou moins de 10. C'est quelqu'un qui est un grand portraitiste et je pense qu'il considère le portrait comme un laboratoire où justement il va essayer d'étudier le sfumato, l'intégration d'une figure dans un paysage ou sur un fond, etc. Et la Joconde est une de ses réussites majeures et tellement majeur que c'est une commande donc du mari de Mona Lisa et il va tellement la considérer comme une expérimentation qu'il va garder l'œuvre pour lui. Et je pense que de son vivant et l'œuvre devient très célèbre. Et ensuite, pour diverses pérégrinations de l'œuvre qui est volée, etc., elle va devenir mythique. Et on va, de même qu'on cherche un mystère dans Léonard, je dirais qu'on va chercher un mystère dans la Joconde.
Oui, et c'est ainsi que vous ouvrez votre livre d'ailleurs, Pascal Brivois, parce que vous, dans les audaces de Léonard de Vinci, il y a aussi beaucoup d'énigmes autour de Léonard de Vinci, il y a beaucoup de mystères, et vous commencez justement par l'histoire du vol de la Joconde. Alors, on est au début du XXe siècle en France, on est en 1911, la Joconde est volée au Louvre, et c'est de là finalement que part la légende, l'aura qui entoure ce tableau et que nous connaissons évidemment encore aujourd'hui.
Oui, parce que la presse s'en mêle. C'est-à-dire que le mystère, c'est le début de la science policière avec Bertillon et on des gens très importants, même Guillaume Apollinaire, sont soupçonnés d'avoir volé la Joconde. Donc le scandale est énorme. On en parle énormément dans les journaux et évidemment, voilà une chambre d'écho fabuleuse pour ce tableau qui n'avait pas été oublié, bien entendu, mais qui d'un seul coup accède à une renommée universelle. Dans le monde entier, on en parle.
Avec toute une série de mystères. Donc on a beaucoup glosé sur les sourcils, sur ce sourire énigmatique aussi. Comment est-ce que vous pourriez nous décrire et nous expliquer, si on peut tenter de l'expliquer, le visage de Mona Lisa, Pascal Brivois?
Alors, je pense que, bon, d'abord, il y a toutes ces techniques de sfumato dont on vient de parler. Mais le sourire, et c'est Freud le premier qui a montré que ce sourire hantait la psyché de Léonard, peut-être le sourire de la mère. En tout cas, personne avant lui, pratiquement personne, il y a un ou deux cas, avant lui n'avait pas un sourire. Et ce sourire-là, il est effectivement tout à fait énigmatique aussi parce que il utilise des ombrages très 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 particuliers, ce qui fait que il est pratiquement indéfinissable. Il y a ça dans la Joconde, mais il y a aussi toute la dimension scientifique. On a dit que les sciences et l'art se mélangeaient chez Léonard. Dans la Joconde, il y a de la géologie. Il y a l'histoire de la Toscane préhistorique. Il y a dans la Joconde toute l'énigme métaphysique du temps qui passe, avec ce pont qui est là et qui est bon, qui souligne sous le pont Mirabeau, etc. Vous connaissez,
oui.
Vous connaissez cette figure oui. Iconique. Mais c'est très important. C'est-à-dire que l'idée, c'est que face au vieillissement, et là je reprends l'analyse magnifique de Daniel Arras sur le sujet, derrière le vieillissement de cette jeune femme. Bon, il faut arrêter avec la Joconde, c'est le Jocon, c'est mon beau-frère.
Oui, ça c'est Bilvezé.
Faut arrêter maintenant, oui. Bilvezé, parce que on sait aujourd'hui que parce qu'il y a un monsieur qui commentait Pline en 1504 et qui dit en ce moment Léonard est en train de faire le portrait. Léonard notre appel c'était le peintre d'Alexandre le Grand est en train de peindre Mona Lisa. Bon, donc on arrête maintenant toutes
donc
les
donc Mona Lisa c'est bien l'épouse de ce marchand de soie florentin, ouais. Qui lui a commandé le tableau.
Absolument.
Ça, c'est clair.
Lisa Gherardini, il n'y a absolument aucun doute maintenant. Le mystère demeure quand même. Le mystère, c'est le temps qui passe, cette jeune femme qui vient d'avoir son dernier enfant, et cette beauté qui est promise aux outrages des ans, est mise en relation avec la formation géologique d'un paysage et le temps qui passe.
Alors il y a beaucoup de mystères autour des œuvres de Léonard qui persistent. Hein. Par exemple, la belle ferronnière qui est aussi conservée au Louvre, on ne sait pas de qui il s'agit. Ouais. Hein, je parle sous votre contrôle, ouais. À tous les deux. En revanche, on sait très bien qui est la dame à l'hermine, hein, qui est la maîtresse de Ludovic Sforza, donc le duc de Milan, l'un des protecteurs de Léonard, celui qui était surnommé Ludovic le Mort. Vous racontez l'histoire de ce tableau Pascal Brivois, bon, il est très beau, mais c'est aussi un projet politique, à la base.
C'est aussi un projet politique. La belle Galerani, Galet, en grec, c'est l'hermine, la belette. Et donc, il y a ce petit animal qui est... Parce que voilà un tableau qui raconte une histoire. Voilà un petit animal, il y a un effet projecteur, quelqu'un entre dans la pièce, et l'animal et la maîtresse se tournent, la maîtresse est immédiatement subjugué par son amant qui est le commanditaire et par ailleurs il y a cette bête qu'il faut cette bête qui peut être terrifiante, qui est un symbole de pureté, mais qui est toute griffe dehors et qui est prête à déchirer ses ennemis. Et elle est calmée. Alors, pour moi, c'est quelque chose de fabuleux. On sent les doigts de la belle se refermer. C'est presque comme si on sentait le cœur palpitant de la bestiole sous les doigts arqués de la jeune femme. Moi, je trouve, c'est un de mes tableaux préférés de Léonard.
Mais alors, la dimension politique, justement.
Alors, la dimension politique, pardon, j'avais oublié. La dimension politique, c'est qu'évidemment, cette belette, c'est aussi le symbole politique, l'ordre de l'Hermine et l'ordre auquel appartient Ludovic Sforza. Et c'est l'occasion de dire, voilà, je fais partie d'un des plus grands ordres de chevalerie de la chrétienté. Et je suis prêt à déchiqueter mes ennemis.
Et c'est aussi pour Ludovic Sforza que Vinci a peint la Seine, sans doute là aussi une des œuvres les plus admirées, les plus commentées aussi. Valérie Mettez, vous y consacrez plusieurs pages de votre ouvrage avec des dessins préparatoires, l'œuvre complète hein, qui était une peinture murale pour un réfectoire dans un couvent dominicain, c'est ça,
à
Milan. Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire ce tableau ? Lui aussi a une histoire mouvementée. Hein.
Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que Léonard de Vinci, qui a toutes les audaces et qui ne se refuse rien, et qui veut toujours expérimenter, va réaliser cette scène, de même qu'il réalisera plus tard une grande peinture murale qui est la bataille d'Anghiari, et qui, toutes les deux, vont être des échecs techniques. Ce n'est pas pour dire que Léonard de Vinci rate les choses, mais c'est pour dire qu'il expérimente. C'est-à-dire, on lui dit, la fresque est une technique où il faut aller vite, etc. Lui, il dit oui, mais non, moi, je peux pas, parce que j'ai plein de choses à faire, etc. Et donc, il va essayer d'inventer une autre technique en mêlant de l'œuf, de l'huile, etc. Et ça va être, pour la scène, une catastrophe, et plus tard, pour la bataille d'Anghiari, une seconde catastrophe. Donc c'est toujours intéressant de voir que Léonard ne refuse et ne recule devant rien et essaye toujours. Alors, après, peut-être la fascination de la scène, c'est en effet la disposition, c'est assez complexe, mais la disposition iconographique des apôtres autour du Christ, c'est, comme aussi disait Daniel Arras, la première fois où un peintre représente un traître, et non pas un traître très repérable, mais un traître parmi les autres. On le repère simplement parce qu'il a une bourse, il a un petit peu de côté, mais il est avec les autres. C'est une peinture qui représente, qui figure une parole, qui est la parole du Christ, à un moment donné, avec chaque apôtre qui va être individualisé et qui à la fois compose un ensemble. On a parlé de flux, de reflux, puisque Léonard s'intéresse beaucoup au mouvement. On a parlé d'apôtres comme des notes de musique, vous voyez. Donc c'est une peinture qui est aussi fascinante pour sa mise en perspective avec des personnages trop grands, donc une mise en espace comme ça très audacieuse, mais qui est liée comme ça à un échec technique.
Oui, mais c'est surtout un échec technique qui a pourtant été admiré. On va voir au Clos Lucet l'été prochain, oui. Une tapisserie qui est faite, oui, pratiquement dans le moment, c'est-à-dire l'admiration universelle, oui, de cette fresque, qu'on ne peut pas décoller du mur, bien entendu, donc d'où la tapisserie. Et c'est particulièrement touchant parce que Léonard peint le mouvement de l'âme, exactement comme il voulait le faire, sans en avoir encore les moyens intellectuels, sans doute, et picturaux dans l'adoration des mages, mais au moment où, de la parole de Jésus, l'un d'entre vous me trahira, ça fonde l'Église chrétienne, par l'exclusion, évidemment, de Judas, mais en même temps, c'est chacun réagit différemment. Et il s'agit de représenter, effectivement, le flux et le reflux du mouvement de l'âme.
Oui.
Peindre le mouvement de l'âme.
Oui.
Dans la bataille d'Anghiari, c'est la même chose.
Pareil, oui.
Peindre la colère, la rage et la peur, terrifiante,
oui,
comme si on faisait du cinéma.
quelques notes de la viola organista, un instrument de musique inventé, en tout cas dessiné par Léonard, une sorte d'instrument hybride entre le piano et le violoncelle. Alors, sauf erreur de ma part, il n'a pas concrétisé l'objet de son vivant, on est bien d'accord, Pascal Briouard. On n'en sait rien, après tout.
Seul la puce d'eau le sait, dit-on en italien.
Voilà, c'est fausse fête, en tout cas, depuis 2013, grâce au pianiste polonais Sławomir Zubrowski, que l'on entend ici jouer. Valérie Mété, quel regard est-ce que Léonard de Vinci portait-il sur la musique?
Alors, la musique est fondamentale chez Léonard, de même qu'elle est fondamentale à la Renaissance, et qu'elle fait partie de la culture des peintres. Et d'ailleurs, Léonard donc savait chanter, on dit qu'il chantait bien, il savait jouer de la lyre à bras, et d'ailleurs c'est aussi une lyre qu'il a été offrir à Milan à Ludovic Sforza, et même s'il était très compétent en musique, de la même façon beaucoup de peintres, et Verrocchio lui-même était aussi musicien. Peut-être ce qu'on oublie, c'est que la musique faisait aussi partie de l'éducation et de la culture de quelqu'un qui faisait de la peinture, de la musique, des décors de théâtre, etc. Donc la musique est très importante, et aussi peut-être elle rejoint sa passion pour le mouvement et pour le temps.
Oui, et puis c'est aussi un instrument, c'est le cas de le dire, un instrument de cour aussi, Pascal Briouard. La musique, est-ce que Léonard de Vinci était un bon courtisan?
Un bon courtisan, et ça commence par la musique. Vous savez qu'on a une chanson de Léonard de Vinci, un rébus. Amore la sol mi fa sperare, seul l'amour, ré la sol mi fa, et on a les notes, sperare. Et à partir de ça, on peut reconstituer une œuvre qui a peut-être été jouée à la cour de Milan. Léonard est un excellent courtisan, il sait manier les blagues, il sait manier les fables, et à partir de cela, conquérir les cœurs, notamment quand il organise des fêtes splendides avec des machines de théâtre.
Donc, instrument de fête, instrument de pouvoir, instrument de diplomatie et de guerre aussi, Pascal Briouard, il ne faut pas l'oublier.
Oui, de diplomatie et de guerre. En fait, c'est une chose de gagner une bataille, mais encore faut-il faire savoir qu'on a gagné une bataille. Par exemple, plus tard pour Louis XII, Léonard met en scène des spectacles guerriers. Et en 1518 à Amboise, il organise une fête colossale, avec tous les canons du roi de France, des milliers de soldats, une fête guerrière qui fait allusion à Marignan et au grand roi subjugateur des Helvètes.
Donc François Ier, hein, donc le vainqueur François évidemment de Marignan, le roi de France. Comment expliquer justement la proximité qu'il peut y avoir entre ces deux personnages-là? Parce que Léonard est un petit peu un traître quand même à sa patrie, non, quand il se rallie comme ça au roi de France. C'est Louis XII, hein, déjà dans un premier temps.
Voilà, c'est Louis XII, c'est en 1499, et je pense que les contacts avaient été pris avant.
Oui.
Mais disons, en 1499, Léonard choisit son camp, et c'est le camp des Français.
Oui. D'ailleurs, mais vous titrez, d'ailleurs, c'est l'un des titres de votre chapitre, la trahison de Léonard. C'est un mot très fort quand même pour quelqu'un qui a travaillé aussi à l'art de la guerre.
Oui, mais c'est une trahison pour nous qui pensons en termes nationaux et en termes de patrie. Mais ça n'existe pas à cette époque-là.
Exactement.
Et donc, il change d'affiliation. Il n'est pas tout seul. Hein. Saint-Severino, le gendre même, alors là, pour une trahison, là, c'est une vraie trahison, une trahison familiale, le gendre de Ludovic le Mort passe du côté des Français, devient le premier écuyer de France, un patron de Léonard, justement. Donc vous voyez, ça n'est peut-être pas si grave, mais ce qui est certain, c'est que il va très très longtemps être très très proche des Français, et je suis même persuadé qu'il a été anobli par la France.
Voilà, et quand il s'installe en France à Amboise, hein, au château du Clos Lucé, il apporte avec lui quelques œuvres, dont la Joconde et dont son Saint-Jean-Baptiste. Et je voudrais qu'on termine en évoquant ce tableau, Valérie Mété, Saint-Jean-Baptiste avec cet index du bras droit.
Ouais. C'est pas ce Saint-Jean-Baptiste-là,
c'est
le Saint-Jean-Baptiste Bacchus.
Ah bah voyez,
c'est le grand.
Je me suis fait avoir alors.
Mais tout le monde se fait avoir. Mais Lord Sagnard a bien démontré que c'était le Saint-Jean-Baptiste et Bacchus.
Vous l'aimez moins, alors.
Vous l'aimez moins, oui, voilà.
Je comprends.
Ah bon,
moi aussi.
Non, mais vous faites bien de rectifier. Alors, donc ça, parlons de mon Saint-Jean-Baptiste à moi, si c'est possible. Valérie Mété, avec cet index du bras droit, comme ça, qui est pointé vers le ciel, on a vraiment l'impression d'un geste, on a vraiment l'impression d'un mouvement.
Alors, c'est vrai que c'est un tableau assez fascinant parce que, au point de vue technique, on en parlait tout à l'heure pour le sfumato. Je pense que c'est aussi un bel exemple de perfection technique, comme ça, avec cette figure, bon, maintenant qui a été restaurée, donc on la voit mieux, qui est moins sombre, mais c'est une figure comme ça qui surgit de l'ombre, qui surgit du noir. Les contours sont effacés, donc il y a une volupté comme ça de la matière picturale. Alors, il y a ce fameux geste, donc on pourrait dire que c'est un hors-cadre, il montre, il désigne quelque chose qui ne peut être représenté, il désigne l'invisible. Et à la fois, c'est quand même un tableau assez fascinant pour le sourire du Saint-Jean-Baptiste. On parlait de sourire, et en effet, la Joconde était le premier portrait, le premier vrai portrait souriant de l'histoire de la peinture occidentale. Et là, ce Saint-Jean-Baptiste qui a un sourire, et d'ailleurs qu'on retrouvera dans l'autre Saint-Jean-Baptiste, le grand Bacchus, est un sourire peut-être aussi étrange, parce qu'il sourit beaucoup, donc on a beaucoup glosé sur ce sourire. Est-ce qu'il sourit parce qu'il nous dit, en effet, qu'il y a peut-être une instance supérieure, ou est-ce qu'il sourit parce qu'il est heureux, ou est-ce qu'il sourit de son androgynie, etc. C'est un sourire qui peut beaucoup
troubler,
intriguer, non pas comme un mystère de plus de Léonard, mais je pense qu'il est tout à fait volontaire par Léonard, et sur cette androgynie du personnage.
Oui, d'autant que le modèle du tableau, c'est sans doute le fameux Salaï, qui était l'apprenti de Léonard, l'un des nombreux apprentis de Léonard, et dont les relations avec le maître sont peut-être allées un petit peu plus loin que le seul apprentissage artistique.
Oui, c'est ce que disent des contemporains. Vasari dit que Léonard aimait caresser les cheveux de Salaï, mais on a des graffitis infiniment plus pornographiques dans le Codex Atlanticus, qui semble dire que les choses allaient plus loin. Et puis on a le Mazzo, qui est donc un auteur du 16e siècle, qui dit que Léonard avait ses habitudes des Grecs, que d'ailleurs le Mazzo ne condamne pas du tout.
Voilà.
Et c'est vrai que le Saint Jean-Baptiste aussi a été rapproché d'un dessin qu'on a retrouvé et qui est un ange de l'Annonciation. Donc en fait, il s'est servi d'un ange de l'Annonciation, c'est-à-dire que vous êtes en face du Saint-Jean-Baptiste, mais vous êtes dans la position de Marie, puisque l'ange de l'Annonciation, c'est celui qui va annoncer à Marie qu'elle sera la mère du Christ. Donc c'est intéressant de voir qu'il change les rapports avec le spectateur, ce qui permet de dire que Léonard, bon, c'est vrai que considérait la peinture comme une causa mentale, et donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, beaucoup à ce qu'il représente.
Merci beaucoup à tous les deux d'être passés par les studios de
RFI.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Valérie Mettet, Léonard de Vinci chez Larousse, Pascal Briouat, Les Audaces de Léonard de Vinci chez Stock. Dans un instant, l'info. On se retrouve demain avec l'écrivain mauricien Barlène Piamoutou, qui nous emmène sur les traces du grand poète américain Walt Whitman. Son roman, intitulé Whitman, est paru aux éditions de l'Olivier, et vous m'en direz des nouvelles. Thank you.